Cinésique Radio, interview BO par Benoît Bazericourt.
Bienvenue à l'écoute des podcasts de Cinésique Radio, à l'écoute sur cinésique.fr et toutes les plateformes de podcasts. N'hésitez pas à laisser vos notes et commentaires et à nous écrire via Cinésique sur Facebook ou Twitter.
Bon, je commence, mais ça doit rester entre nous, hein. C'est le plus important.
Interview du compositeur Erwan Chandon pour La dernière vie de Simon en compagnie de Sabrina Beccarine qui est la co-scénariste. Et nous entendrons tout à l'heure Léo Carman, le réalisateur du film, au téléphone. Le film sort le 5 février, donc cette semaine. Bonjour.
Bonjour.
Alors donc, on vous connaît déjà très bien, Erwan, parce que on vous a déjà rencontré à l'occasion d'une année polaire de Samuel Collardet. Vous avez, en 2018, vous avez aussi signé la musique de Quand on crie au loup de Marie-Lou Berry en 2019. Vous vous exercez aussi bien au cinéma qu'au théâtre pour le jeu vidéo, l'animation. Vous avez été sélectionné dans divers dispositifs, comme le troisième personnage de Aubagne, ou encore la résidence Trio, organisée par la Maison du Film. Donc là, il s'agit d'un premier film de Léo Carman, avec Benjamin Voisin, Camille Clarisse et Martin Carman. Simon, 8 ans et orphelin, a un pouvoir secret. Il est capable de prendre l'apparence de chaque personne qu'il a déjà touchée. Au sein de sa famille adoptive, un drame va survenir et une romance va éclore. Alors avant de parler plus précisément de ce projet, dans votre parcours, quel regard vous avez sur votre parcours de musique de film, Erwan, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une génération aujourd'hui qui est bien présente, il y a un renouveau de la musique de film. Vous avez conscience comme ça d'être dans un bon timing finalement?
Oui, j'en ai conscience et c'est une énorme chance, parce que moi j'ai suivi le parcours qui m'était imposé par mes rencontres, par le hasard, par la musique que j'aime faire depuis ça fait maintenant une dizaine d'années que j'essaye de mener ma barque dans ce monde de la musique de film, commencer par des courts-métrages comme tu l'as dit, des documentaires, des pièces de théâtre, tout le temps en essayant de faire une musique qui me corresponde, en essayant de m'y retrouver là-dedans, ce qui est pas évident pour un compositeur de musique de film. On est quand même tributaire d'un projet qui est plus grand que nous, donc on essaie de s'adapter, et petit à petit j'ai réussi à aiguiller mon parcours en me fermant des portes, en fait. Quand on me demandait de composer une musique qui me correspondait pas, bah, j'ai eu tendance à refuser de plus en plus, ce qui a eu tendance à orienter les personnes qui voulaient collaborer avec moi et à m'appeler pour ce que j'aime faire, c'est-à-dire la musique symphonique.
C'est vrai qu'il y a de plus en plus aujourd'hui l'habitude de faire appel à des artistes qui viennent de la scène, de l'album, en musique électronique, en rock. Vous avez vraiment un parcours classique, hein, de conservatoire. Est-ce que vous considérez que l'écriture, ce côté savant de la musique, est important pour faire de la musique de film, ou c'est pas forcément une obligation? Est-ce que ça vous enferme pas non plus dans un genre? Est-ce que, alors on le voit dans votre parcours, que vous pouvez aussi sortir de cette écriture classique pour explorer d'autres styles?
Alors, ce qui est magique dans la musique de film, c'est qu'il y a de la place pour tous les styles de musique, et c'est incroyable. Pour des compositeurs qui aiment être des compositeurs caméléons, ils peuvent le matin composer dans le style de Jean-Sébastien Bach, et l'après-midi qu'on leur demande de faire un pastiche de NTM. C'est quand même incroyable. J'ai un regard vraiment admiratif par rapport à la diversité de toutes les musiques dont il y a besoin dans le cinéma, et au-delà du cinéma, je trouve ça très sain, en fait, que chacun puisse s'exprimer avec son bagage, avec ses armes. Avec moi, en fait, je viens pas d'un parcours classique. J'ai commencé à 20 ans, je savais pas lire la musique. Là, j'en ai 34. À un moment, je me suis dit, ok, c'est la musique symphonique qui m'attire beaucoup. Il va falloir apprendre à la faire, parce que à la base, je suis batteur métal.
Ah oui, donc vous avez.
J'ai toujours été attiré par la musique de film et la musique symphonique. J'ai découvert ça tout petit. Je me rappelle, j'avais un vinyle les plus grandes musiques de western, donc Morricone bien sûr et Dimitri Tiomkin et plein d'autres compositeurs. Je pense que c'est ça qui m'a attiré. Après, plus tard, mes premiers émois de musique symphonique dans un film, ça a été Titanic. Enfin, c'est revenu tard après, mais entre-temps, j'étais batteur. J'ai fait beaucoup de batterie, guitare, basse, plein d'instruments de musique dite actuelle. Et pendant un moment, je pensais que ça allait être ma carrière, batteur dans des groupes rock, métal. À l'âge de 20 ans, je me suis réorienté. Je me suis dit, non, c'est vraiment la musique de film symphonique que j'ai envie de faire. Mais c'est une richesse incroyable. Et pour tout le cinéma, de pouvoir faire appel à n'importe quel compositeur de musique ancienne, de musique rock, classique, tout ça, c'est une richesse incroyable. Ouais.
Et en tout cas, votre connaissance de l'écriture l'écriture classique vous a évidemment bien servi pour ce projet-là, La dernière vie de Simon, comme on va l'entendre. La dernière vie de Simon, musique d'Erwan Chandon, l'un de nos invités. Et donc, on entend dans cette musique toute la charge émotionnelle et romanesque aussi de cette histoire, avec un contenu très fantastique. Et là, je me tourne vers la co-scénariste avec Léo Carman, le réalisateur, Sabrina Bekarin, qui, donc, en co-écrivant ce film, dans un domaine qui est très peu fréquenté par le cinéma français, finalement. Est-ce qu'au départ, quand vous aviez ce scénario-là, est-ce qu'il était à ce point-là inscrit dans le genre, et est-ce qu'il était facile, évident de le proposer pour un financement ?
Alors au départ, il était encore plus inscrit dans le genre, il y avait beaucoup plus de codes, notamment les codes un peu américains, qu'on a un peu enlevés au fur et à mesure, parce qu'on nous renvoyait tout le temps « c'est trop fantastique, on fait pas ça en France », tout ça et tout. Mais je vous avoue qu'au tout début, quand on a eu l'idée du scénario et qu'on s'est lancé dans l'écriture, on n'a jamais pensé que ce serait un obstacle. Pour la simple raison que nous, on avait envie de voir ce film, en fait. Du coup, on s'est dit, si nous, on a envie de le voir, forcément, il y en a d'autres. Et ça répondait aussi à un style de film qui avait bercé notre enfance, enfin nos enfances, du coup, notamment avec les films des années 80, Amblin, Spielberg, Zemeckis, Cameron, tout ça, avec une envie de grandes émotions, d'envolées lyriques, ce genre de film, quoi.
Les références Spielberg, évidemment, peuvent aussi s'entendre dans la musique par une référence plutôt John Williams, voilà, c'est ce qui n'est pas pour déplaire à Erwan, j'imagine. Dans ce processus-là, justement, quand on est dans le genre, dans le fantastique, évidemment, on sait peut-être très tôt que la musique jouera un rôle important.
Alors c'est venu au fur et à mesure aussi, enfin, de base Léo adore la musique de film, moi aussi, donc on savait qu'il y en aurait, mais au fur et à mesure de l'écriture et de l'épuration aussi des dialogues et d'aller vraiment au cœur et à l'essentiel, la musique a pris de plus en plus de place, et je me souviens d'une anecdote assez précise que Léo s'amuse à raconter aussi, quand on est allé voir le film Drive en fait, on est sorti du film avec Léo et on n'a pas parlé pendant 5, 10, 15 minutes, et à un moment on s'est regardé et on s'est dit mais en fait c'est incroyable dans ce film le nombre de choses qui passent par les regards dans leur histoire d'amour. Et là, on est vraiment repassé sur le scénario en faisant une version comme ça d'épuration, en se disant, mais là, ça va être les regards et tout. Et dès qu'on enlève du dialogue et dès qu'on se dit, mais là, on est dans les regards et tout ça, en fait, d'un seul coup, c'est la musique qui prend place, en fait. Et du coup, je pense que ces étapes-là ont donné encore plus de place à la musique. Parce que, évidemment, quand c'est trop bavard, on va dire, avec les acteurs... Mmh. Il n'y a pas la place, là c'est devenu bavard avec la musique.
Et donc des dialogues ont été gommés a posteriori, ou alors dès l'écriture du scénario, vous avez anticipé en disant là on enlève le dialogue, la musique prendra en charge cette scène.
Oui, dès le scénario, ouais.
D'accord. Et alors pour un film comme ça aussi, ce qui est assez étonnant, c'est que donc, ce sont des films avec des adolescents, puis ensuite des jeunes adultes, où il y a la tendance aujourd'hui, quand on a ce type de personnage, d'avoir beaucoup de musique synchronisée de leur goût, d'avoir du rock, de l'électro, qui est leur quotidien finalement. Et donc dans ce film-là, il y a très très peu finalement de musique synchronisée, c'est vraiment la musique originale qui prend en charge leur quotidien. Est-ce que ça, dès le scénario, vous n'avez pas inscrit comme il est d'usage, là, ils écoutent tel morceau, par exemple ?
Non, à tous les niveaux, d'ailleurs. Même, il y a très peu de repères temporels et de références dans le film. Ça aurait pu être des posters de films aussi qui ancrent dans une temporalité et tout. Et ça, c'était notre intention de se dire, mais ce film peut se passer n'importe quand. Et ça va avec la musique, quoi. On avait envie ça aurait pu être il y a 10 ans, mais on pourra le regarder dans 20 ans sans être écrasé par toutes les références musical ou autre qu'il y a dans le film, quoi. Et du coup, la musique, comme le reste, sont juste au service du film et des émotions. Mmh. et pas dans, pas dans l'idée de l'ancrer quelque part dans le temps.
Parce que c'est vrai que vous parliez de Drive, où très souvent on a tendance à oublier la musique originale de Cliff Martinez pour ne garder que Kavinsky, en fait, qui est un emprunt. Et donc dans ce film-là, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de musique préexistante, finalement, c'est vrai qu'ils peuvent donner un repère. Cette musique originale d'Erwan crée quelque chose de beaucoup plus universel, finalement. Quel a été le point de vue adopté par la musique ? Là, je me retourne peut-être vers Erwan. Le point de vue de la musique, j'ai l'impression que c'est la musique de l'intériorité des personnages, c'est leur nostalgie, parce qu'on est dans différentes temporalités. Des jeunes adultes qui se souviennent de leur enfance, est-ce que la musique devait prendre en charge ce côté nostalgie enfantine ?
Oui, en tout cas en ce qui concerne le thème de Simon, puisque en fait la BO est basée sur 4 thèmes, davantage des thèmes sur des faits que sur des personnages ou que sur des lieux. Celui qu'on appelle le thème de Simon, c'est en fait le thème de son pouvoir. Ensuite, le thème qui pourrait être le thème de Madeleine, c'est plus le thème de l'amour. Celui qui pourrait être plus le thème de la famille, c'est le thème de la maison, la notion de famille rassurante. La nostalgie enfantine, on la retrouve surtout au début du film, puisque Simon est enfant et on voit le monde à travers ses yeux. Il y a beaucoup d'envolées, beaucoup de choses qui se passent dans l'orchestre, et c'est une musique très claire, très, très lumineuse. Une musique qui s'assombrit à mesure que le scénario avance et qu'on découvre que tout ne va pas se passer comme Simon l'espérait au début. Donc on suit vraiment l'intériorité des personnages. Ouais. La musique s'assombrit au fil de la narration.
Et il y a aussi une permission à l'émotion. Quoi. Il y a pas eu de dans votre écriture, Sabrina et puis Léo, il y a vraiment, vous avez osé aller dans l'émotion. En France, on a tendance à retenir cet aspect-là peut-être souvent.
Ah, moi, j'adore pleurer. J'adore quand les gens pleurent, rigolent, tout ça et tout. Et c'était vraiment, pour nous, hyper important. D'ailleurs, quand on écrit, on parle de structure émotionnelle. Donc, on construit le scénario en fonction de l'émotion des personnages, de ce qu'ils ressentent et de là où on va emmener le spectateur. Tout est construit en fonction des émotions. On a d'ailleurs, avec Léo, monté une boîte de prod qui s'appelle Emotion. Donc, c'est pour vous dire à quel point c'est important pour nous. Et de se dire aussi que l'émotion peut venir de beaucoup d'endroits. Et de dire que tout ne repose pas forcément sur l'acteur, sur le scénario, ou sur la musique, ou sur la mise en scène, que chacun va y apporter quelque chose. Et c'est au final, en fait, chaque département, en apportant son talent, et quelque chose de simple, va au final donner quelque chose qui nous emmène vers l'émotion.
Eh bien, on va entendre dans cette musique d'Erwan Chandon cette émotion dans la partition, et ensuite quelques mots de Léo Carman, le réalisateur. Je suis avec Léo Carman, réalisateur de La dernière vie de Simon. Bonjour Léo.
Bonjour, bonjour.
C'est votre premier film. Est-ce que c'est la première fois que vous vous confrontez à la musique dans un film ou vous l'aviez déjà fait dans un court-métrage ?
Je l'avais déjà fait dans un court-métrage. Je trouve que c'est vraiment extrêmement important la musique dans un film. Moi j'adore écouter de la musique de film. J'en écoute même tout le temps dans la rue. J'ai tout le temps ça en fait dans les oreilles. Parce que ça me permet de replonger dans les émotions d'un film sans forcément me refaire entièrement deux heures de film, quoi. La musique de film permet de se laisser aller à des émotions enfouies.
Très bien. Alors, ce film-là est assez audacieux pour un film français parce qu'il flirte avec un genre plutôt américain qui est le film fantastique. Il y a d'ailleurs Steven Spielberg remercié au générique. Est-ce que musicalement, il était question pour Erwan de faire un peu du John Williams?
Ah bah évidemment. De toute façon, avec Erwan, on s'est rencontrés sur la passion de John Williams, hein, c'est-à-dire de Williams ou de Silvestri, des compositeurs qui ont accompagné le cinéma des années 80-90 américains, le cinéma de Spielberg, de Zemeckis, de Cameron, tu vois, le cinéma qui fait rêver, quoi, le cinéma où on vit plein d'émotions pendant deux heures, et puis en plus de ça, quand on sort de la salle, on réalise que ça nous raconte quelque chose de notre vie. Et oui, bien sûr, John Williams a été une référence, mais parce que c'est un des maîtres aujourd'hui de l'orchestre, et on a cette passion avec Erwan de l'orchestre et de cette musique jouée par des vrais instrumentistes. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de vivant dans l'orchestre et qui, je trouve, ajoute quelque chose à l'émotion d'un film.
Pour ce premier film, qu'il était compliqué de financer, est-ce que justement l'orchestre était un problème à un moment donné du budget ou c'était quand même facile à débloquer ?
Ça a été compliqué parce que c'est un film effectivement avec peu de budget et une musique orchestrale avec suffisamment de musiciens pour faire sonner comme on a envie de faire sonner, ça coûte de l'argent. Donc toute la négociation a été de trouver comment pouvoir avoir suffisamment de musiciens avec une orchestration suffisamment solide, et je tiens à remercier, je pense qu'Erwan le fera aussi, mais toute l'équipe d'orchestration qui a assisté Erwan pour la mise en forme orchestrale de sa musique et pour qu'elle sonne le mieux possible avec le nombre de musiciens qu'on a réussi à avoir, quoi.
À quel moment Erwan est intervenu et que vous l'avez choisi ? Est-ce que c'était dès l'étape d'écriture ou une fois le film terminé ?
C'était bien avant le tournage. C'est-à-dire que généralement, les compositeurs, ils sont appelés sur un montage fini. Ils ont entre un et trois mois pour composer une musique. Ils le font à toute vitesse. Ils doivent remplacer des musiques qu'ils ont témoins, qu'on a placées sur le montage, qui sont généralement des musiques d'autres films ou des musiques classiques. Donc on leur dit, voilà, on a mis du Wagner, c'est aussi bien que Wagner. Donc généralement, ça leur plaît pas beaucoup. Et là, ce qui était super, c'était que Erwan, il a pu commencer à travailler sur le film dès le scénario. Du coup, il a eu le temps de chercher, de se perdre, d'aller dans plein de directions différentes. On a eu le temps de chercher tous les deux. Et puis, ce qui était super, c'est qu'on a eu tous les thèmes musicaux du film avant de commencer le tournage. Et donc, du coup, tous les comédiens, tous les techniciens, tous les artistes du film avaient déjà de la musique du film dans les oreilles. Pour le créer, on avait déjà quelque chose de presque abouti avant même de tourner la première image. Et c'est vachement bien parce que quand vous parlez avec les artistes, les techniciens, les comédiens, vous parlez en mots, vous parlez autour de scénarios, vous parlez de manière assez intellectuelle. Et d'un coup, de pouvoir communiquer avec de la musique, de communiquer une envie d'ambiance, une envie d'atmosphère avec la musique, ça permet d'échanger sur un autre plan, presque quasiment émotionnel.
Alors, il arrive que des réalisateurs soient un peu frileux sur la musique, la retiennent au maximum. Vous, de votre côté, vous n'aviez pas peur, justement, à cette musique qui joue pour l'émotion, le soutien à l'émotion?
Ah bah bien sûr, c'est ce que je préfère. Moi, j'adore les grandes envolées lyriques, j'adore quand d'un coup on m'emmène, j'adore les violons, j'adore ça. Je trouve que c'est... On va au cinéma pour ça. Je trouve que le cinéma, c'est avant tout un spectacle. En tout cas, le cinéma que je préfère, c'est le cinéma de spectacle. Le cinéma où on en a plein la vue, plein les oreilles, et où on peut laisser aller ses émotions, et en plus d'être fan de musique classique en soi. Donc non, je pense qu'il faut toujours chercher un équilibre entre l'histoire qu'on raconte, les scènes qu'on a tournées, comment elles sont construites et comment la musique peut les soutenir. Il ne faut pas que la musique les dépasse, et à la fois il faut qu'elle les soutienne et qu'elle soit à la hauteur aussi de l'enjeu. Donc tout ça, ça a été un jeu d'équilibriste avec Erwan, de une fois le film tourné, de voir à quel niveau mettre la musique, que ce soit en termes de mix ou en termes d'orchestration, en termes d'importance, de présence, pour qu'elle puisse être au diapason avec les scènes elles-mêmes.
Et on entend dans cette musique d'Erwan Chandon le côté merveilleux, le côté fantastique et l'orchestre, évidemment. Alors j'aimerais revenir avec Erwan sur deux choses qu'a évoqué Léo Carman, le réalisateur. Tout d'abord, le fait d'intervenir très tôt. En général, c'est vrai, comme il le dit, le compositeur intervient sur le montage. Quel a été votre premier contact avec le film ? Est-ce que c'est la lecture du scénario, la discussion avec le réalisateur et la scénariste ?
En fait, c'est les discussions avec Léo et Sabrina, avec qui j'étais ami avant de collaborer sur ce film. J'en ai entendu parler pendant peut-être un an avant de lire le scénario. L'histoire me faisait rêver, voilà, mais je n'osais pas trop me proposer. Ça s'est fait assez naturellement, en fait, puisque un jour, Léo il m'a dit, écoute, en écoutant ce que tu fais comme musique, je me dis que ça serait peut-être génial que tu fasses un essai sur le scénario. Est-ce que tu veux pas lire le scénario ? Bien sûr, j'ai lu le scénario. J'ai terminé en larmes. Je lui ai dit OK, je fais des essais. J'ai fait plusieurs maquettes. Et là, on est parti dans un ping-pong de maquettes qui n'a pas cessé jusqu'au tournage, même jusqu'à l'enregistrement, parce que ça a duré à peu près 3 ans et demi, 4 ans. Je suis arrivé sur le projet en 2016. J'ai lu le scénario en 2016, et là j'ai commencé à faire des maquettes dans tous les sens. Tout avec l'esthétique pour laquelle ils avaient fait appel à moi, c'est-à-dire symphonique, avec un langage assez riche, et je pouvais me l'autoriser puisqu'il n'y avait pas encore d'images derrière lesquelles je devais me cacher. J'avais aucune limite, puisque le scénario était là. Allez, on envoie, genre, voilà, des envolées lyriques, des accompagnements très riches, et moi, ça m'a permis de sortir de mes de mes sentiers battus, puisque j'avais pas de deadline, j'avais aucune limite. Donc j'ai fait des erreurs aussi, je suis parti dans de mauvaises directions, mais on pouvait se l'autoriser parce qu'on avait le temps. Et alors on est parti sur des délires autour du piano, parce que Léo est pianiste aussi. Du coup on pianotait, il pianotait un bout de thème, je pianotais l'accompagnement. On a pris le temps vraiment de chercher, de se tromper, et de fouiller. Souvent je lui envoyais des maquettes, il me disait ok, j'aime bien la mélodie, est-ce qu'harmoniquement tu peux pas être un peu plus ambigu, est-ce qu'on peut pas aller chercher plus loin des choses bizarres. Alors moi je lui parlais de polytonalité, de choses qui me font rêver depuis que j'analyse dans les musiques symphoniques depuis longtemps, mais qu'on peut très rarement s'autoriser en musique de film. Et là, je suis allé chercher harmoniquement beaucoup plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire, et avec grand plaisir. Donc, on a pris le temps, voilà, d'aller chercher plus loin, et de se tromper, et de
voilà. Ce qui est gratifiant aussi, c'est que sa musique soit diffusée comme un Morricone avec Sergio Leone, soit diffusée sur le tournage, sur le plateau, ouais. Et les comédiens l'entendaient, donc ça conditionnait aussi un peu leur jeu. Et donc vous étiez vous-même aussi présent sur le plateau pour entendre la musique jouée.
Oui, ouais. Oui, on est allé sur le tournage avec Mylène Ballion qui a chanté dans le film. Pour s'imprégner de l'atmosphère du tournage. C'est une équipe, on a découvert que c'était une équipe très soudée, tout le monde est ami, c'est incroyable, on peut le voir dans toutes les avant-premières, il y a toujours du monde sur scène, c'est vraiment une équipe de copains qui s'est retrouvée autour de cette esthétique. Donc oui, on était sur le tournage et on s'est imprégné de cette atmosphère vraiment bon enfant mais professionnel malgré tout.
Et par rapport à l'orchestre, il y a les maquettes au départ, et donc évidemment ces maquettes avec des faux sons de violon ont été ensuite enregistrés avec des vrais sons. Comment s'est fait la transition? Alors vous savez vous-même orchestrer, très souvent des compositeurs font appel à des orchestrateurs parce qu'ils ne connaissent pas cette science de l'écriture. Vous avez cette science, mais vous êtes malgré tout entouré.
Oui, parce que c'était la première fois que j'avais à produire autant de minutes de musique. Il y a 1h05 de musique dans le film. Donc je voulais surtout pas être, j'en ai entendu beaucoup sur les difficultés de la production d'une musique. Là j'étais seul, il y avait pas de producteur exécutif sur le film, j'étais vraiment seul à la barque et je me suis dit ok, je vais pas essayer de faire tout seul, même si j'avais relativement beaucoup de temps pour le faire. Je vais pas me lancer tout seul dans la phase de copie, la phase d'orchestration, c'est-à-dire produire le matériel pour l'orchestre. J'avais envie de m'entourer de personnes qui l'avaient déjà fait avant. Donc là j'ai fait appel à Jean-Stéphane, qui est un orchestrateur qui travaille beaucoup en France, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Donc, il a l'habitude de cette musique, qui est un fan ultime de John Williams, mais pas que, et qui a cette science de savoir écrire la musique pour que ce soit le plus logique possible. Alors moi, j'avais déjà fait l'orchestration par instrument virtuel, donc tout était écrit à l'avance jusqu'à la dernière note de Glockenspiel, mais lui l'a écrit de façon à ce que en studio ce soit le plus efficace possible. Et là, c'est tout un art qu'il a réussi à faire avec brio.
Et il y a aussi, on va l'entendre, l'écriture de thèmes. On va entendre deux extraits où le même thème revient.
Thank you.
Musique de La Dernière Vie de Simon, musique d'Erwan Chandon, où on entend donc le thème, où on l'avait entendu en piano, en corde, et avec un célestat à l'instant. Cette écriture thématique, qui est d'ailleurs, j'allais dire, qui est pas née avec John Williams, évidemment, mais qui est emprunt aussi de l'opéra, de Wagner, ce leitmotiv associé à des personnages ou à des situations dramaturgiques. Le thème que l'on entend, à quoi est-il associé?
Il est associé au thème de l'amour impossible. C'est pour ça qu'il est empreint de romantisme et de nostalgie en même temps. J'aime croire qu'il nous dit que l'histoire d'amour n'a pas d'issue, d'issue positive.
Et ce que je trouve très réussi et très fort dans ce film, La Dernière Vie de Simon, c'est qu'il n'est pas uniquement uniforme sur une corde, que soit le fantastique par exemple ou l'émotion, mais il y a des ruptures de ton où il y a des scènes vraiment où on rigole, donc il y a des scènes de comédie, ensuite une scène de romance poignante, et ensuite hop, il y a des envolées romanesques et fantastiques. Je me tourne vers Sabrina, à l'écriture du scénario, est-ce que ces mélanges des genres étaient déjà inscrits ou ça s'est trouvé plus tard?
C'était tout à fait inscrit quand on travaille avec Léo, donc comme je disais, on travaille sur la structure émotionnelle, et tout ce qui compte c'est que l'évolution des personnages soit cohérente. Et à partir de là, j'ai envie de dire, quand on y croit, on peut tout se permettre, en fait, puisqu'on est avec les personnages. D'ailleurs, pendant longtemps, on avait des retours sur la fin qui nous disaient qu'il y a trop d'action à la fin, tout ça et tout, et nous, on ne comprenait pas pourquoi. Léo s'amusait à dire, c'est comme dire qu'il y a trop de vélo dans la fin de E.T., c'est pas possible, on adore le vélo dans E.T. Et en fait, on s'est rendu compte que ce qui donnait cette impression-là, c'était qu'on perdait un peu le personnage, son émotion, ce qu'il ressentait à ce moment-là. Et quand on a réussi à recentrer là-dessus, d'un seul coup, l'action est passée toute seule, en fait. Et c'est vraiment toute la réécriture du film. À chaque fois qu'on avait des retours sur c'est trop fantastique, c'est trop ceci, c'est trop cela, il y a trop de genre, il y a 12 films en un, tu vois. À chaque fois, on se recentrait sur qui est le personnage, par quelle émotion il passe. Et du coup, tout venait se mettre au service de cette émotion. Et là, d'un seul coup, on peut tout faire et c'est autorisé, c'est accepté en fait.
Et ce qui est intéressant musicalement, c'est que donc il y a ce mélange des genres, mais la musique ne tombe pas dans le risque de faire de l'illustration scène après scène, musique pouet pouet pour séquence rire, une séquence émotion, etc. Donc il y a une volonté de faire unité dans la musique.
Ben, quand il s'agit de faire la musique d'un personnage qui peut changer d'apparence, le but de la musique est de garder un fil rouge émotionnel tout au long de l'évolution de ce personnage. C'était un peu le pari de départ. C'était vraiment réussir à faire accepter ce pouvoir surnaturel au spectateur, qu'ils puissent s'autoriser à y croire parce que émotionnellement ils sont rattachés au personnage. Et ça, je pense que dans la musique de film, c'est un des rôles principaux, c'est de pouvoir aller chercher le spectateur au-delà de l'histoire, mais juste aller le chercher avec ses tripes, avec son cœur, et lui permettre de croire à une histoire fantastique.
Tout le monde le sait, faut dire quelque chose d'autre.
Interview avec le compositeur Erwan Chandon et sa scénariste Sabrina B. Karine pour La Dernière Vie de Simon de Léo Carman. Alors je propose de terminer, Erwan, avec cette chanson de fin, avec cette voix de Mylène Ballion qui vous accompagne régulièrement dans l'année polaire aussi. Elle avait signé, je crois, une chanson. À quel moment cette chanson est apparue, cette présence?
Au moment où on a voulu donner un côté conte à la musique, où on s'est aperçu que l'orchestre avait besoin d'une touche de féerie supplémentaire. Il n'y en a pas beaucoup de musique dans le film, et à la fin du film, on avait besoin d'aller piquer le spectateur avec une dose supplémentaire de fantastique, en tout cas de merveilleux. Je peux pas raconter la fin du film, mais en tout cas, on avait besoin de revenir à la magie de l'enfance, tout à la fin. Et la voix murmurée de Mylène Ballion, parce qu'il ne s'agit pas d'une chanson, mais d'une voix murmurée, de mélisme à la voix, comme on pourrait l'utiliser comme un instrument, vient transpercer le cœur du spectateur à la fin du film. Et c'était juste le timbre dont on avait besoin à ce moment-là.
Très bien, et bien merci Erwan, Sabrina. Je rappelle La Dernière Vie de Simon de Léo Carman, sortie le 5 février. Et nous nous quittons avec cette chanson, cette musique qui reprend le thème du film avec cette voix de Mylène Ballion, musique d'Erwan Chandon.